Ce matin, dans ce qui a été dit, chanté et dans vos prières, j'ai retrouvé un certain nombre de choses dont j'allais parler. C'est un petit peu rassurant. On est ce matin sur un contexte, non pas nouveau, mais un petit peu particulier. On va aborder un sujet, un thème, un livre de la Bible qu'on verra ensuite en étude biblique mardi dans 10 jours. On a décidé de faire un petit peu ça cette année et on a choisi la première épître aux Corinthiens pour nos études bibliques et puis on essayera chaque fois. Ce n'est pas toujours le dimanche avant, parce que le calendrier n'est pas toujours facile, de parler sur le thème qu'on abordera, en tout cas sur la portion du livre qu'on abordera en étude biblique. On a déjà eu le mois passé, avec Jean-Paul, qui nous a apporté une introduction contextuelle des épîtres aux Corinthiens. Et ce matin, en quelque sorte, nous partageons l'introduction à l'étude des premiers chapitres de 1 Corinthiens. Finalement, il sera beaucoup question de pureté par opposition au péché individuel, mais aussi de l'Église. Ces lettres aux Corinthiens sont un peu plus que les autres le manuel pratique par excellence de la vie de l'Église, mais surtout de sa croissance sur un point spirituel. Et ces sujets sont en partie déjà sous-tendus, sous-entendus dans l'introduction de Paul. 1 Corinthiens chapitre 1, verset 1. De la part de Paul, appelé à être apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu et du frère Sosthène à l'Église de Dieu qui est à Corinthe, à ceux qui ont été conduits à la sainteté par Jésus-Christ, appelés à être saints, et à tous ceux qui partout font appel au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, leur Seigneur et le nôtre. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père, et du Seigneur Jésus-Christ. De la part de Dieu, notre Père, et du Seigneur Jésus-Christ. Conduit à la sainteté par Jésus-Christ, appelé à être saint, font appel au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, de la part de Dieu, notre Père, et du Seigneur Jésus-Christ. Dans ces 3 versets de salutation, de bénédiction, Paul touche déjà un point crucial à la source, de la source, des problèmes de l'Église de Corinthe et de bien d'autres au travers des siècles. Il est question là de la consécration au Christ. Dieu notre Père, le grand patron, Jésus-Christ, notre Seigneur, notre chef de service. Toutes choses lui ont été soumises, et lorsqu'il aura soumis toutes choses, après son retour, la mort en dernier, il remettra le royaume au Père, de qui il tire toute autorité. Christ obéit au Père et agit de toute éternité pour le Père. Et à la fin, il lui remettra le royaume. Au chapitre 15, au verset 24, dans toujours 1 Corinthiens, nous lisons « Ensuite viendra la fin, quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père, après avoir anéanti toute domination, toute autorité et toute puissance. En effet, il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous ses ennemis sous ses pieds. Le dernier ennemi qui sera anéanti, c'est la mort. Dieu, en effet, a tout mis sous ses pieds, mais lorsque Dieu dit que tout lui a été soumis, il est évident que c'est à l'exception de celui qui lui a soumis toute chose. Lorsque tout lui aura été soumis, alors le Fils lui-même se soumettra à celui qui lui a soumis toute chose, afin que Dieu soit tout en tous. Nous ne pouvons pas encore, corruptibles, charnels et mortels, nous présenter tels quels devant le Père. Et il n'est pas encore tout en tous. Il l'est seulement en espérance par l'intermédiaire du Fils qui règne sur nous. Verset 50 du chapitre 15. Ce que je veux dire, frères et sœurs, c'est que notre nature actuelle ne peut pas hériter du royaume de Dieu et que ce qui est corruptible n'hérite pas non plus de l'incorruptibilité. Voici, je vous dis, un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons transformés. En un instant, en un clin d'œil, au son de la dernière trompette. On a parlé de trompette la semaine dernière. La trompette sonnera. Alors les morts ressusciteront, incorruptibles, et nous, nous serons transformés. Il faut en effet que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. Nous ne pouvons accéder au Père qu'en Jésus-Christ. Il vit en nous, mais lorsque nous nous adressons au Père, nous présentons devant lui, au pied de son trône, ce n'est qu'au travers de notre Seigneur Jésus-Christ, qui est notre nouveau prêtre et sacrificateur pour l'éternité. Non plus dans le lieu très saint du temple terrestre, mais dans le lieu très saint du royaume même de Dieu. Nous sommes comme cachés en lui devant le Père. À son retour, alors, nous ressusciterons incorruptible, semblable à lui, l'homme céleste, spirituel. Mais aujourd'hui, nous sommes encore semblables au premier Adam, l'homme terrestre, charnel. Verset 47 du chapitre 50. Le premier homme tiré de la terre, pardon, verset 50 du 47 du chapitre 15, je dis des bêtises. Le premier homme tiré de la terre est fait de poussière. Le second homme, le Seigneur, est du ciel. Tel est l'homme terrestre, tels sont aussi les hommes terrestres. Et tel est l'homme céleste, tels seront aussi les hommes célestes. Et de même que nous avons porté l'image de l'homme fait de poussière, nous porterons aussi l'image de celui qui est venu du ciel. Je ne veux pas là faire de ma fixation sur le Christ une doctrine bizarre sur le comment d'une différence de notre relation au Père et au Fils. Mais lorsque nous minimisons cela, nous risquons de perdre de vue la pureté et la sainteté indispensable pour l'accès au Père. Et nous n'avons cette pureté qu'en Jésus-Christ, notre Sauveur, au travers de son sang, mais aussi et surtout de sa vie en nous. L'œuvre de la croix va au-delà du jour où son sang a coulé pour nous personnellement. J'entends le jour de notre conversion. Elle se poursuit dans nos vies jusqu'à son retour. Verset 18. Mais pour nous qui sommes sauvés, la croix est puissance de Dieu. Verset 18 du chapitre 1. La puissance même de Dieu, dit la version Semeur. Paul vient de dire au verset 17 qu'il a proclamé la bonne nouvelle sans recourir aux arguments de la sagesse humaine afin de ne pas vider de son sens la mort du Christ sur la croix. Et au verset 29, il dira « Par Dieu, vous êtes unis au Christ qui est devenu pour nous cette sagesse qui vient de Dieu. » Christ est devenu pour nous cette sagesse qui vient de Dieu. Unis au Christ, littéralement en Christ Jésus, apparaît 73 fois dans les lettres de Paul. On peut comprendre par là une union juridique à Christ qui nous représente auprès du Père, unis au Christ. La puissance de la croix agit en nous, non pas seulement comme un symbole mystique, une pensée philosophique qui pourrait devenir une dérive, risquant de nous laisser croire, par fatalité peut-être, que notre corps corrompu n'est pas important et que ce qu'il fait, quoi que ce soit, n'est finalement pas très grave, sachant qu'il sera détruit, alors que notre esprit, lui, est en Dieu. Et nous verrons en approfondissant en étude biblique que c'était un problème chez certains Corinthiens. Mais dans notre vie de tous les jours, sur le chemin d'une vie de sanctification, sous l'autorité du Fils, Jésus-Christ, lui, le second homme céleste, venu vers nous, les hommes terrestres, afin de nous transformer en son image céleste. Le verset 4 du chapitre 2 parle d'une action manifeste de la puissance de l'Esprit. Une action manifeste de la puissance de l'Esprit. Au verset 10, l'Esprit scrute tout, même les pensées les plus intimes de Dieu. Et les notes de la version Semeur précisent, basées sur d'autres textes, l'Esprit parle, veut, enseigne, témoigne, convainc, conduit, entend, annonce. Mais aussi qu'on peut lui résister, l'attrister, lui mentir, et plus gravissime, l'outrager, pécher contre lui. Et c'est lui seul, Jésus-Christ, qui sur cette terre, au travers de son esprit, et ce jusqu'à son retour, est notre Seigneur légitime et notre intermédiaire avec le Père. Si nous sommes ses ambassadeurs sur terre, il l'est, et c'est incontournable, le nôtre auprès du Père, dans le royaume céleste, dont nous sommes héritiers, mais non encore en possession. Car nous l'avons vu au verset 50 du chapitre 15, notre corps actuel ne peut hériter du royaume. Oui, il est notre pureté, notre sainteté aux yeux de Dieu dans le royaume qu'il nous a acquis. mais il veut, et il est indispensable qu'il le soit, être notre sanctification ici-bas, par son esprit, en nous transformant jour après jour, au-delà d'un désir abstrait qui souvent nous semble impossible, mais dans le concret d'une vie de pureté et de haine du péché, de l'impureté. Et c'est pour cette raison que Paul dira aux Corinthiens, « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit ?» C'est notre corps terrestre, certes, pardon, notre corps terrestre est corrompu par le péché et ne peut pas, sous cette forme, hériter du royaume de Dieu. Mais par la grâce du Père, dans l'œuvre du Fils à la croix, notre corps est le temple du Saint-Esprit, qui est l'action efficace du Christ qui se poursuit en nous. L'habitation de Dieu sur cette terre en chacun de ceux qui l'ont reçu. Et si nous ne laissons pas autorité au Seigneur sur nos vies pour les sanctifier, nous n'hériterons pas de son royaume parce qu'il doit vivre en nous et conduire nos vies, les préparer, les sanctifier pour pouvoir nous transformer en son image céleste au dernier jour, le jour du Seigneur. En d'autres termes, pour pouvoir être concrètement notre Sauveur, Jésus-Christ doit devenir notre Seigneur. Dans son commentaire du verset 10, Frédéric Godet écrit ceci. Le mot « Seigneur » rappelle son autorité. Celui de Jésus-Christ réveille le souvenir de toutes les tendresses de l'amour divin déployé en celui qui a porté ce nom. C'est la 11e fois, poursuit-il, que le nom de Jésus-Christ reparaît et nous sommes au 10e verset. J'ai aussi été frappé par cela et je voulais ce matin insister particulièrement sur l'autorité et l'omniprésence, la réflexion dans nos actes, nos pensées, nos paroles de celui qui devrait être le centre de notre vie dès lors que nous l'appelons Seigneur. Sinon, nos paroles n'ont aucun sens. On poursuit jusqu'au verset 10. Verset 4. Je dis constamment à mon Dieu toute ma reconnaissance à votre sujet pour la grâce de Dieu qui vous a été accordé en Jésus-Christ. En effet, en lui, vous avez été comblés de toutes les richesses, en particulier en ce qui concerne la parole et la connaissance, dans la mesure où le témoignage de Christ a été solidement établi parmi vous. Certains commentateurs ont vu dans cette action de grâce soit de l'ironie au vu de la situation à Corinthe, soit une stratégie pour enrober ce qui va suivre. Souffler le chaud et le froid, je dois dire que je maîtrisais pas mal cela professionnellement. Mais avec d'autres, moi je préfère voir Paul, malgré la situation, rendre grâce sincèrement à son Dieu. C'est une relation de prière personnelle pour l'œuvre qu'il a déjà accomplie à Corinthe en Jésus-Christ. Car l'Église du Christ et l'avancement du royaume est sa préoccupation centrale. La vie nouvelle en Christ a été manifestée par le témoignage de Christ dans le fait qu'ils ont été comblés de richesses en lui. Il s'agit là des dons de l'Esprit. Pas des fruits de l'Esprit, des dons de l'Esprit. Ce n'est pas la même chose. Verset 7, « Ainsi, il ne vous manque aucun don à vous qui attendez le moment où notre Seigneur Jésus-Christ apparaîtra. » Et pourtant, ces dons étaient mal utilisés. Nous le verrons dans nos études. Je voudrais aussi relever dans ce verset l'importance de l'attente. À vous qui attendez le moment où notre Seigneur Jésus-Christ apparaîtra. L'aspiration, justement, le soupir à recevoir l'image céleste, la sainteté totale et définitive, doit nous aider à tendre vers cette sainteté. Je passe au verset 10, je garde le 8 et le 9 pour la fin. Je vous supplie, frères et sœurs, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, de tenir tous le même langage. Qu'il n'y ait pas de division parmi vous, mais soyez parfaitement unis dans le même état d'esprit et dans la même pensée. Selon Godet, parfaitement unis ensemble, c'est le parfait emboîtement de tous les membres de l'Église en un seul organisme spirituel. Le terme grec désigne en premier lieu l'acte d'agencer les pièces d'une machine en vue de son fonctionnement normal. De là, l'équipement d'un ouvrier pour son travail. Dans Éphésiens 4, verset 11, « C'est lui qui a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme bergers et enseignants. Il l'a fait pour former les saints aux tâches du service en vue de l'édification du corps de Christ. Jusqu'à ce que nous parvenions tous à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à la maturité de l'adulte, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Le terme grec littéral, manière de voir, état d'esprit, désigne l'intuition chrétienne en général, la conception de l'Évangile dans son ensemble, notre manière de voir, notre état d'esprit de l'Évangile dans son ensemble. Le terme grec, même sentiment, même pensée, se rapporte plutôt à la manière de décider un point particulier, à ce que nous appelons l'opinion, l'avis. L'apôtre désire donc qu'il y ait chez eux d'abord pleine harmonie de point de vue à l'égard de la vérité chrétienne. Puis accord parfait dans la manière de résoudre les questions particulières. La version Summer dit « Il faut cependant que je vous adresse une recommandation instante, et c'est au nom de notre Seigneur Jésus-Christ que je le fais. Vivez tous ensemble en pleine harmonie. » Vivez tous ensemble en pleine harmonie. Tous ensemble en pleine harmonie. Quelle phrase magnifique! Ce mot harmonie m'émeut même quand je songe à la pensée du Seigneur Jésus-Christ. Au chapitre 2, verset 16, Paul pose la question : qui donc connaît la pensée du Seigneur et qui pourrait l'instruire ? Il cite Ésaïe 40, verset 13. Et il répond : mais nous, nous avons la pensée du Christ. Paul introduit par ce verset, en posant déjà le cadre, les sujets que nous aborderons ensemble mardi dans 10 jours, dans les chapitres 1 à 4 de 1 Corinthiens. Des problèmes d'esprit de parti, parti humain ou parti pris, entre guillemets. Comment, de quelle manière Paul a porté l'évangile à Corinthe. Il devra se justifier justement face à ses parties de son autorité en Christ. Le vrai rôle des serviteurs de Dieu. C'est Dieu qui fait croître. Nous, nous travaillons ensemble au service de Dieu et vous êtes les champs qu'il cultive. Ou l'édifice qu'il construit. Chapitre 3, versets 7 et 9. Nous verrons aussi l'impossibilité de Paul à leur donner du solide spirituellement, car ils sont charnels. L'orgueil, justement, des Corinthiens et l'humilité qui devrait plutôt y prévaloir. Que personne donc, ne mette sa fierté dans les hommes, écoutez bien, car tout est à vous. Un tout petit peu plus loin, tout est à vous, mais vous êtes au Christ. Tout est à vous, mais vous êtes au Christ, et le Christ est à Dieu. Chapitre 3, versets 21 et 22. Tous ces points sont d'ordre ecclésiastique, fonctionnement de l'Église. Et on pourrait penser qu'ils ne concernent que les Corinthiens. Et si c'est vrai qu'ils ciblent particulièrement des faits locaux et contextuels, méfions-nous. J'ai été frappé au travers des commentaires de l'étude du texte de Paul au 1er siècle, de l'étude du commentaire de Calvin au 16e, de l'étude du commentaire de Godet au 19e, combien les problématiques de l'Église de Corinthe sont à chaque fois actuelles dans les siècles vécus. Les Corinthiens, l'Église des Corinthiens, n'était pas forcément pire, même si la ville de Corinthe a inspiré le terme, on l'a vu ensemble, corinthianisme pour toutes les formes de débauche. Et à l'inverse, notre époque, où on entend parfois tout fout le camp, n'a finalement rien inventé de la déchéance morale. Il y a derrière tous ces points justement, derrière tous ces points, justement, une question d'autorité et de souveraineté de Christ sur nos vies. C'est pour cela que Paul cite 11 fois notre Seigneur Jésus-Christ en 10 versets. Avoir la même manière de voir la conception de l'Évangile dans son ensemble. C'est, me semble-t-il, le but pour lequel nous voulons plonger nos yeux et nos têtes et nos cœurs dans l'étude et le partage de la parole. Ce qui, me semble-t-il, encore contribuera à ce que nous trouvions un accord parfait dans la réponse à nos questions particulières, nos décisions. Oui, il y a du chemin à faire. Mais c'est, selon Godet encore, un but à atteindre, pas une réalité immédiate. C'est l'état auquel il faut aspirer pour l'honneur du nom de Jésus-Christ, quels que soient les sacrifices d'amour-propre et d'intérêt qu'un tel but puisse réclamer de chacun. En conclusion, et je termine où j'ai commencé, si nous nous demandons comment tout cela est possible pratiquement, la réponse peut sembler compliquée si on considère les réalités de l'Église de Corinthe jusqu'à nous. Mais pourtant si criante de vérité et de proximité dans ces versets 8 et 9. Verset 8, chapitre 1. C'est lui aussi qui vous affermira jusqu'à la fin pour que vous soyez irréprochables le jour de notre Seigneur Jésus-Christ. Verset 9. Dieu est fidèle. Lui qui vous a appelé à vivre en communion avec son Fils Jésus-Christ, notre Seigneur. Dieu est fidèle. Lui qui vous a appelé à vivre en communion avec son Fils Jésus-Christ, notre Seigneur. Concrètement, 1 Corinthiens 6, 15. Ne savez-vous pas que vos corps sont les membres de Christ? Prendrais-je les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée? On peut décliner prostituée en toutes nos idoles. Tout l'attrait du monde. Travier nous a parlé récemment de Mammon. Paul poursuit. Certainement pas. Ne savez-vous pas que celui qui s'unit à la prostituée est un seul corps avec elle? En effet, il est dit, les deux ne feront qu'un. Mais celui qui s'unit au Seigneur est un seul esprit avec lui. Ne le savez-vous pas? Votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu. Vous ne vous appartenez pas à vous-même. Vous ne vous appartenez pas à vous-même, car vous avez été racheté à un grand prix. Rendez donc gloire à Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Sur la définition de ces versets, je me questionne. Suis-je en communion avec le Seigneur ? À qui est-ce que j'appartiens ? Pour moi en tout cas. Si je regarde ma vie passée, un arrière-goût d'amertume me vient aux lèvres. Mais le verset 28 du chapitre 1 me dit : Dieu a choisi les choses basses et méprisées du monde, celles qui ne sont rien, pour réduire à néant celles qui sont, afin que personne ne puisse faire le fier devant Dieu. Afin que personne ne puisse faire le fier devant Dieu. Et ce verset m'aide à persévérer sur le chemin de la consécration de ma vie en sa communion. Si tu ne l'as pas reçu, fais-le sans attendre. Seuls ceux qui l'ont reçu porteront son image céleste. Les autres seront privés totalement de cette essence céleste nécessaire dont ils ont, dont on a quelque part encore la notion aujourd'hui en nous. seront vidés et privés totalement de cette essence de Dieu en eux et vivront éternellement la souffrance terrible et l'angoisse insupportable de la séparation d'avec celui dont ils étaient l'image. Ils désireront la mort, mais elle n'existera plus. Ou plutôt leur vie sera une forme de mort ressentie selon ce que Dieu avait prévenu en Éden. Si tu ne l'as pas reçu, fais-le maintenant. N'attends pas. Et si ta vie n'est pas toute à lui, décide maintenant de la lui consacrer. Car il doit être ton Seigneur pour être ton Sauveur. Amen. On va prier. Père éternel, on veut te rendre grâce par Jésus-Christ, pour Jésus-Christ, de ce que tu préparais de toute éternité. Tu nous l'as envoyé. Ô Seigneur Jésus, quelle grâce d'être venu jusqu'à nous. Quelle grâce d'être venu rétablir cette image, Seigneur. Quelle grâce d'avoir fait couler ton sang. Pour que ceux qui le reçoivent puissent, à travers toi, se présenter devant le Père. Seigneur Jésus, nous voulons te rendre grâce parce que tu nous as envoyé l'Esprit. Tu n'as pas arrêté là ton œuvre, mais tu l'as poursuivi en nous jusqu'à la fin, jusqu'à ton retour. Tu l'as dit, tu seras avec nous jusqu'à la fin du monde. Et l'Esprit est là pour ça. On a vu ce matin l'œuvre qu'il veut accomplir en chacun d'entre nous. Ô Seigneur Jésus, je te remets chacune de nos vies pour que tu puisses y régner. Pour que ton nom y soit sanctifié, Seigneur. Dans nos vies, dans nos familles, dans notre Église. Seigneur, tu connais le cœur de chacun. Viens rendre ta parole vivante. Viens faire croître ce que tu as semé. Seigneur, bouleverse ceux qui n'ont pas encore compris. Transforme-les. Et Seigneur, transforme jour après jour ceux qui sont restés à la table des matières encore. Montre-leur, Seigneur. Aide-nous les uns les autres à nous édifier afin qu'ensemble, nous puissions avancer sur ce chemin vers ta stature parfaite, Seigneur, à la maturité d'adulte. Et Seigneur, merci pour cette parole que tu nous as donnée. Merci pour Paul, merci pour ses épîtres aux Corinthiens. Et Seigneur, nous voulons te remettre aussi ce temps que tu veux nous accorder, que nous puissions en profiter de pouvoir plonger nos yeux encore dans ces textes pour les partager ensemble, pour vivre ce que tu veux nous apprendre, afin, Seigneur, que nous puissions parvenir à cette parfaite harmonie selon ta pensée. Seigneur, bénis chacun maintenant pour la fin de cette journée, pour les jours qui viennent, pour les semaines qui viennent, et que les paroles que tu as mises dans nos cœurs puisse nous conduire, puisse nous parler, puisse nous transformer. Par ton nom, Seigneur Jésus. Amen.
Je partage avec vous les annonces. Je vous laisse prendre connaissance du programme de la semaine. Ce sont les vacances, mais c'est important de se retrouver quand même pour prier. C'est ce qu'on vous invite à faire mardi. Dimanche prochain, nous aurons un culte de témoignages. Donc c'est important aussi de se préparer pour partager ce qu'on vit avec Dieu, partager ce qui nous encourage aussi, partager aussi ce qui nous fait avancer. On a vu plein de sujets que Raymond nous a partagés ce matin pendant le message. Et dimanche prochain, ce sera aussi un petit détail qui change dans notre vie pratique, ce sera aussi l'heure d'hiver. Alors si vous ne savez pas dans quel sens il faut avancer ou reculer votre montre, dites-vous juste que si vous ne touchez rien dans votre rythme, vous arriverez une heure en avance. Donc vous aurez le temps de peaufiner votre témoignage. Donc le mardi de la semaine d'après, on aura donc l'étude biblique sur le thème du message de ce matin, donc les quatre premiers chapitres de 1 Corinthiens. Je vous rappelle aussi le parcours baptême qui va bientôt commencer. Une personne, je ne sais pas s'il y a eu d'autres personnes, Jean-Paul, qui t'ont contacté. Voilà, donc il y a une personne qui s'est annoncée pour ce parcours. Si vous voulez en faire partie, contactez Jean-Paul rapidement. Je vous laisse aussi découvrir les dates en avance pour la suite de notre programme, les dates. Voilà, et je vous informe que le 12 janvier, on aura une réunion de prière en commun avec les différentes églises qui constituent la pastorale du Pays de Gex. Alors, où ? C'est une bonne question. Ça nous permet de vous donner des nouvelles de l'église de Crossword Saint-Genis. L'église de Crossword Saint-Genis cherche des locaux, cherchait des locaux. Ils ont trouvé. Ces locaux sont en chantier, ils sont sur le site de Val-Thoiry. Et on aimerait bien, si les locaux sont prêts, faire cette réunion de prière en commun chez eux. Ouais. Ouais. Crossword Saint-Genis. Voilà pour le lieu. Des nouvelles des uns et des autres. Ruth Zminden, la grand-maman de Johanna, est hospitalisée suite à un état de grande faiblesse. Des examens sont en cours, mais Ruth souhaite surtout regagner le plus rapidement possible sa maison. Elle est maintenant à Annecy, parce que l'hôpital d'Annecy était plus approprié pour les recherches qui se font. Johanna me disait qu'elle allait plutôt mieux, mais c'est vrai qu'elle aspire surtout à rentrer à la maison. Continuons de prier pour Brian. Brian a toujours ce problème de paralysie de son pied droit et sa jambe droite n'est pas très mobile non plus, il a de la peine à la mouvoir. Par contre, le travail que le kiné fait porte ses fruits au niveau de sa musculature, au niveau de ses muscles. Ses muscles s'étaient fortement affaiblis, ça va mieux, mais voilà, il faut encore prier par rapport à cette paralysie. Brian aura un rendez-vous lundi avec son chirurgien par rapport à cela. Continuons de penser aussi à Roland. Roland qui continue ses exercices de rééducation tous les matins. La semaine qui vient, il sera maintenant à la moitié de son programme de rééducation. Voilà, c'est quand même assez long. Encore 5 semaines. Continuons de penser aussi beaucoup à Annelise. Annelise est toujours hospitalisée, donc à l'hôpital cantonal. Annelise a actuellement un gros problème de nutrition parce qu'elle n'assimile pas bien la nourriture qu'elle prend. Donc non seulement elle mange peu, mais en plus elle n'assimile pas bien. Alors elle est donc nourrie maintenant artificiellement. Le but pour l'instant c'est qu'elle reprenne des forces. Et puis demain, lundi, elle sera transférée à Beau Séjour. Voilà, continuons de prier pour elle. C'est une situation pas facile. Et vraiment qu'elle soit dans la paix et dans la main de Dieu. Nous avons reçu au niveau de l'Église quelques exemplaires de sa parole pour aujourd'hui. Alors c'est donc une brochure pour nous aider dans la lecture de la Bible chaque jour. C'est une brochure plutôt destinée aux chrétiens qui sont jeunes dans la foi. Il y en a 4 exemplaires au fond de la salle, si vous voulez, servez-vous. Ce sont les exemplaires qui vont de septembre à novembre. Et puis, si des personnes sont intéressées, on pourra aussi en commander par la suite.
Pour les brancher, ça existe en APP.
Voilà. Ouais. Merci. Cette semaine, nous vous invitons à prier, comme chaque semaine, pour un chrétien, pour un pays dans lequel il y a de la persécution. Et pour les chrétiens qui habitent ce pays, cette semaine, on vous invite à prier pour le Koweït. Voilà, le Koweït qui est passé en numéro 41. Donc... au nord de l'Arabie Saoudite. Et le Koweït, en 2015, était sur l'index en numéro 50. Donc c'est un de ces pays dans lequel la persécution est plutôt plus difficile, ou en tout cas c'est plus difficile d'être et de vivre sa foi de chrétien dans ce pays. Voilà, je vous invite à vous lever, je vous partage encore deux versets. Deux versets dans Psaume 40, les versets 17 et 18. Que ceux qui aiment ton salut disent sans cesse que l'Éternel est grand. Moi je suis pauvre et malheureux, mais le Seigneur pense à moi. Tu es mon aide et mon libérateur. Mon Dieu, ne tarde pas. Amen. Bonne semaine, bon dimanche.